Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces célébrités qui ont connu la prison. Après Benito Mussolini et Henri Rochefort, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un des plus grands escrocs de l'histoire et qui, lui, n'est pas prêt de sortir de prison.
Hein,
vraiment, 150 ans, ça fait un peu long. Je ne sais pas si je serai là quand il sortira. Le financier Bernard Madoff.
Oui, Stéphane. Alors, des arnaques spectaculaires, on en a vu. Hein, surtout dans cette émission, au moment du quiz, où la production fait toujours
non.
Et parfois de manière assez voyante, pour que Stéphane l'emporte.
Trois propositions pour lutter contre les pandémies, une taxe pour lutter contre l'alcool ou une taxe pour lutter contre la corruption en politique.
Trois. Ou deux, je dirais deux.
Essayez encore.
Un.
Non, bonne réponse. Bonne réponse de Stéphane. Alors déjà, en termes d'arnaque, c'est choquant. Mais cette arnaque-là dont je vais vous parler dépasse l'entendement. Je peux l'affirmer, la pyramide de Ponzi imaginée par Bernard Madoff est pire d'un point de vue éthique que ce qu'on fait dans Burn to be Alive. C'est franchement pas peu dire. Remontons le ton jusqu'en 2007. C'est clairement une autre époque, 2007, un autre monde, puisque Poutine dirige la Russie, Balkany est suspecté de fraude fiscale et Stéphane Bern présente Secret d'Histoire. Eh bien, en 2007, ça fait déjà une quarantaine d'années que des milliards de dollars arrivent sur les comptes d'une entreprise de Wall Street qui a justement pignon sur street, la mal nommée Bernard Madoff Investment Securities. Un investissement pour clients fortunés géré par un des pires escrocs au monde, mais ça personne ne le sait encore, Bernard Madoff. Cet ancien maître nageur, originaire de Long Island, a créé son business alors qu'il n'a que 22 ans avec une mise de 5 000 $. Intuitif, malin, il fait évoluer son entreprise et s'impose peu à peu dans la communauté financière. Il sera même un jour patron du Nasdaq. Réputé éthique et même philanthrope, le diabolique Bernard n'a en fait qu'un seul talent, faire croire à ses clients qu'avec lui, ils sont entre de bonnes mains. En réalité, ils sont en train de se faire plumer en beauté avec une arnaque vieille comme la finance, mais qui n'avait jamais été pratiquée à une telle échelle et sur une telle durée. La fameuse pyramide de Ponzi, qui n'est pas, Stéphane, une position du Kama Sutra douteuse, douloureuse pour les Dombert, mais un stratagème qui consiste à amasser toujours plus de blé à l'infini, et si, et seulement si, évidemment, tous les investisseurs ne réclament pas leur pognon d'un coup. Or, vous le voyez arriver gros comme une maison à Long Island, 2008, la crise des subprimes, la panique, l'effondrement du marché et de la belle pyramide de tonton Bernard. Un désastre à 65 milliards de dollars, qui a ruiné les banques, des particuliers et envoyé Madoff au trou pour, vous le disiez, 150 ans. En juin dernier, Denny Chin, le juge fédéral qui a condamné Bernie, rejette sa demande de libération anticipée. Madoff a 82 ans, ça fait 11 ans qu'il a été coffré, et il se pourrait qu'il meure d'insuffisance rénale. Mais le juge a déclaré ceci: « Lorsque j'ai condamné Madoff en 2009, j'avais pleinement l'intention qu'il passe le reste de sa vie en prison. Rien ne s'est passé en 11 ans pour que je change d'avis. » Dur à l'ex, c'est de l'ex, mon Bernie. Et si le juge est aussi catégorique, c'est que contrairement à Olivier Pouls, qui lui a reconnu avoir falsifié des étiquettes de prix des bouteilles de vin dans sa jeunesse, Madoff, lui, n'a jamais vraiment admis sa responsabilité, ni fait preuve de remords ou de regrets, malgré l'ampleur de son crime. C'est compliqué de dire quand la fraude a commencé exactement, mais l'idée a sûrement germé dans les années 60, quand Madoff débarque à Wall Street avec sa petite société, qui gère alors des actions cotant un maximum 5 $. Il est futé, il est visionnaire, le Bernie, alors il s'intéresse aux nouvelles technologies, celles qui vont faire basculer le marché dans l'ère numérique. Il devient un pionnier du Nasdaq, et c'est très bon pour sa réputation, tout ça. On se dit, à ce stade de sa biographie, que si ça se trouve, il aurait même pu devenir très riche, sans tricher. Son aura et son pouvoir, en tout cas, intéressent et rassurent. Il cultive d'étroites amitiés avec de riches hommes d'affaires influents à New York et en Floride. Il les signe comme investisseurs, leur verse de beaux rendements et utilise leur retour d'expérience positif pour attirer encore plus d'investisseurs. En gros, tout le monde lui met 5 étoiles sur TripAdvisor. Et en quelques années, Bernie se retrouve donc dans la position idéale pour plumer du pigeon à la chaîne. Il est très prisé, ce qui lui permet de choisir son pigeon. Vous vous en doutez, il ne va prendre que les plus gras. Parmi ces quelques happy few des entrepreneurs milliardaires, des célébrités d'Hollywood comme l'acteur Kevin Bacon, Steven Spielberg et sa fondation, de riches particuliers, des institutions financières du monde entier comme la BNP, Natixis, AXA, la Banque Santander et même notre ami la Société Générale qui décidément a bien morflé en 2008. Petit bisou à Jérôme Kerviel. La réputation est là, les rapports financiers habilement maquillés par tonton Bernard sont reluisants. Pourtant, 3 enquêtes sont menées en 8 ans par le régulateur américain des marchés à l'encontre de la société suite à des alerte un peu suspecte. En effet, elle n'est plus inscrite auprès de la SEC depuis 2006, la Security and Exchange Commission, la police de la bourse si vous voulez, et c'est illégal. Et la constance et surtout l'ampleur des rendements du fonds d'investissement n'est absolument pas normale. Et pourtant, rien. Il ne se passe rien. Personne ne voit rien. Personne ne dit rien. Personne sauf
Harry Markopoulos.
Ah, les Grecs.
Se serait exclamé Madoff quand il a découvert que c'était lui qui avait lancé l'alerte. Car oui, Markopoulos était en lien avec la CEC. C'est un brillant analyste financier, un expert en fraude. Et durant presque une décennie, il va s'employer à réunir des preuves du stratagème en vain. Personne ne soupçonne vraiment ce vétéran de Wall Street de 70 ans qui a fait ses preuves depuis tant d'années et qui est de tous les dîners en ville. Vous savez, ces dîners de riches où on entend des phrases comme
« Fiscalement, c'est très intéressant, Porto Rico ».
La revanche de Markopoulos arrive avec la monumentale crise de 2008 qui fait s'effondrer les symboles de Wall Street comme la banque Lehman Brothers. C'est le chaos. Les banques ont fait n'importe quoi. Elles ont accordé des crédits immobiliers à tour de bras, se gavant de profits au détriment de milliers de particuliers qui, eux, vont tout perdre. Ceux qui sont persuadés de n'avoir rien perdu, ce sont les investisseurs du fonds Madoff. Hey, pour eux, tout va bien. Leur argent était en sécurité, mais maintenant, bon, ils souhaitent le récupérer. Tous, ou presque. Autant vous dire que ce jour-là, Bernie est un peu emmerdé. Il est emmerdé, il réunit ses proches, sa femme, ses fils, et il leur avoue, ce qui doit pas être simple à avouer, en gros, qu'il est une merde, et que depuis 40 ans, tout son business n'est en fait qu'un gros mensonge. Et après, rien ne se passe comme dans la chanson d'Henri Dess.
Quand on dit un gros mensonge, on a le nez qui s'allonge.
Et non, le nez de Madoff, lui, ne s'allonge pas, mais ses fils, en revanche, eh ben, ils appellent le FBI. Pourquoi la musique de Navarro pour illustrer une intervention du FBI ? Tout simplement parce que c'est moins cher en droit d'auteur que la vraie musique du FBI. Le 11 décembre 2008, Tonton Bernard est placé en résidence surveillée. Plus de 8000 plaintes sont enregistrées par l'administrateur judiciaire chargé de liquider sa société. Parmi les victimes, certaines qui ont plus investi que d'autres l'ont vraiment mauvaise.
Je demande à mon avocate d'intervenir immédiatement.
Mais c'est trop tard. C'est trop tard, Stéphane.
Ça, c'est contre vos malversations à vous.
La plupart des pigeons ne reverront jamais leur argent. Mars 2009... Madoff plaide coupable. Le 29 juin, le tribunal le condamne donc à 150 ans de prison ferme. Et une question se pose, Stéphane.
C'est pourquoi les bouloches de ses pulls vont se nicher dans le nombril ?
Non, alors c'est pas la question qui se pose vraiment. C'est pourquoi ses proches l'ont-ils couvert si longtemps ? Et est-il possible que, comme il l'affirme, il n'ait été au courant de rien. Les fils, Marc et Andrew, ont quasiment passé toute leur vie professionnelle dans la société de leur père. Ils ont gravi les échelons jusqu'à occuper des postes importants sans jamais être impliqués dans l'arnaque de papa. Eh bien, croyez-le ou non, les amis, à ce jour, les enquêteurs estiment que le plus probable est en effet que ses fils ne savaient rien. Marc, le plus jeune, se suicide fin 2010, au moment du deuxième anniversaire de l'arrestation de son père. Il avait déjà fait une tentative en 2009. Andrew, lui, meurt en 2014 des suites d'un cancer. En 2010, grâce au liquidateur judiciaire, l'avocat Irving Picard, les victimes ont pu récupérer 7 milliards de dollars, soit la moitié des sommes investies chez Bernie. Pour info, Picard facture ses services 1000 dollars de l'heure depuis le début de l'affaire. Il a empoché quasi 1 milliard de dollars d'honoraires, quand on sait le blé qu'il fait déjà avec les surgelés. Vous constater qu'il n'y a pas que des perdants dans l'affaire
Madoff. À mon avis, c'est pas le même.
C'est pas le même, peut-être, non. J'ai pas enquêté. Bernie, quant à lui, aimerait sortir de prison, rapport à ses reins qui le lâchent. Cela dit, aux dernières nouvelles, il est considéré comme un héros par ses codétenus. C'est le plus grand voleur de l'histoire, explique son voisin de cellule. Alors forcément, on lui demande des petits conseils financiers. Ça se tient, ou pas. En tout cas, je vous assure que c'est vrai, Bernard n'a pas perdu les bons réflexes. L'année dernière, il a acheté tous les stocks de chocolat en poudre de la prison pour pouvoir ensuite les revendre paquet par paquet pour se faire un max de thunes. Je ne sais pas si c'est triste ou si c'est drôle, mais c'est comme ça.
Merci Mathieu.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.